le lieu de famille est vraiment le lieu où les hommes, là, sont les rois, en fait. Le lieu du foyer, on va faire des remarques à son épouse qu'on ne va peut-être pas lui faire en public. En public, on va se retenir un petit peu, mais à la maison, peut-être qu'on va se lâcher un petit peu. Et comme on dit, la nature peut peut-être revenir un petit peu au galop. Donc, c'est pas très étonnant, malheureusement, étant donné la culture en Afrique et ailleurs, de savoir que ça se passe de cette manière.
Mm-hmm. Fabinta Badienne, l'eau, hein, peut-être une réaction sur le fait que le domicile est l'endroit le plus dangereux pour les femmes, ça vous étonne ?
Non, pas du tout, surtout pour les femmes migrantes. Quand on sait qu'en général, la famille est réduite, alors là, le mari n'hésite vraiment pas à faire de la violence, hein, son quotidien sur la femme. Voilà.
Alors, justement, hein, Fabinta, dans le cadre de votre travail auprès des migrantes africaines, vous avez relevé beaucoup de cas d'abus. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'elles vivent ?
Elles vivent un calvaire, vraiment. Bon, je vous en avais parlé la fois passée au téléphone. La tendance actuelle, c'est le meurtre, malheureusement. Voilà.
Le meurtre,
nous avons des cas en Espagne, en France et un peu partout d'ailleurs.
Alors, ces femmes, elles arrivent migrantes et qu'est-ce qui se passe ? Les maris décident de profiter de cette situation de vulnérabilité ?
Je pense aussi, parce que comme je le disais l'autre jour, souvent elles ignorent tout de la loi du pays d'accueil. Et le mari aussi, ça l'arrange, hein, de ne pas la laisser sortir, de la laisser comme étant dans une sorte de prison. Donc elle n'est au courant de rien. Vous savez, quand on est enfermé, hein, vraiment, c'est une situation quand même qui n'est pas du tout confortable pour la dame. Hein.
Et vous dites qu'il y a beaucoup d'abus psychologiques.
Oui, il y a beaucoup d'abus psychologiques, oui. Et malheureusement, ces dames qui sont victimes d'abus psychologiques se retrouvent en psychiatrie.
Alors Raïssa Kasongo, puisque vous êtes maintenant parmi nous, hein, ces violences existent aussi en République démocratique du Congo. Quelle est l'ampleur du problème dans votre région ? Raïssa ? Alors malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'entend pas Raïssa. Voilà, alors c'est dommage. Hein. Nathalie Barge, ce qui explique le silence, c'est aussi les pressions familiales.
Les pressions familiales, mais je voudrais revenir pour ajouter à votre question de tout à l'heure. On parlait de la sphère privée et de la culture, mais c'est une culture globale, universelle. La femme est une sorte de femme-objet, une sorte d'objet sexuel. Et bon, on va en parler peut-être aussi tout à l'heure par rapport aux lois. Il est vrai que encore dans l'esprit de l'homme, d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans la plupart des pays, il était autorisé à l'homme de corriger sa femme si vraiment cela le méritait. Certains textes religieux également le conseillent, je ne les citerai pas, mais nous le savons tous. Donc, en fait, c'est un état d'esprit qui est vraiment généralisé. Et puis, comme nous le savons aussi, la société n'évolue pas aussi vite que cela, malheureusement. Les mentalités sont très, très lentes à évoluer. En ce qui concerne la pression familiale, elle est énorme. Et elle n'est pas seulement énorme en Afrique, elle est énorme partout. Il y a la pression, on va dire la pression visible, que je dirais un petit peu la pression qui peut faire que la femme va effectivement, on va nier ce qui lui arrive, on va lui dire non, tu exagères ou des choses comme ça, mais etc. Donc elle va être dissuadée d'une manière générale à porter plainte. On va lui conseiller de ne pas porter plainte parce que tu te rends compte, si tu portes plainte, c'est la catastrophe. Tu as des enfants, la famille est complètement éclatée. Il y a ce gros problème en Afrique, en Asie et ailleurs de ce qu'on appelle l'honneur de la famille. Dans le cas vraiment d'une violence familiale et d'une jeune femme ou d'une femme qui veut porter plainte et qui va demander de l'aide à sa famille, en général on la ramène chez le mari et on essaye de discuter avec le mari, on lui dit ça va s'arranger, etc. Et parfois malheureusement ça se termine très mal. Vous avez parlé des chiffres tout à l'heure, c'est 58% de ces femmes donc qui sont tuées par leur compagnon ou un membre de la famille, et ça représente en moyenne une femme tuée toutes les 10 minutes par quelqu'un qu'elle connaît dans le monde. Donc c'est vraiment un problème de déséquilibre dans les rapports de pouvoir entre hommes et femmes dans la sphère privée, la sphère domestique.
Mais alors ces pressions familiales finalement, elles sont aussi menées par d'autres femmes, les sœurs, les mères des victimes.
Mais je pense qu'il peut y avoir une pression familiale non dite aussi. Une sorte de pression familiale qui fait que, encore une fois, la famille, déjà, ne veut pas ouvrir les yeux sur ce qui se passe. La pression familiale, c'est la pression de la communauté aussi. C'est la pression de la communauté. Et puis, il y a la pression interne de la personne elle-même, qu'elle va s'infliger à elle-même, je vais dire. C'est pire que tout, mais c'est une réalité. Cette personne, elle se trouve dans une telle situation qu'elle a des enfants, admettons, elle a des petits-enfants. Elle se dit... La pression économique, le problème économique, c'est une forme de pression aussi. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va m'arriver si je porte plainte? Où est-ce que je vais me retrouver? Et puis en Afrique, les structures pour recevoir ces femmes qui portent plainte sont extrêmement rares, pour ne pas dire inexistantes, excepté dans quelques pays où l'on a des femmes comme les dames que vous avez invitées qui, elles, se démènent pour arriver vraiment à faire quelque chose pour venir en aide à ces femmes.
Mm-hmm. Alors, Fabinta Badienne, un aspect de ces violences domestiques, c'est le viol conjugal. Est-ce que les hommes comprennent que même leurs femmes peuvent leur dire non?
Malheureusement, non, ils ne le comprennent pas. Parce que, comme vient de le dire, je ne sais pas comment elle s'appelle encore, excusez-moi.
Nathalie.
Ils considèrent la femme comme leur objet. Donc, il ne peut pas comprendre que cette femme, vraiment, ne veuille pas, par exemple, de rapport avec eux. Non, ça, vraiment, c'est un affront, si on peut parler de la sorte.
Et est-ce que le viol conjugal, on en parle, même entre femmes?
Malheureusement, en Afrique, pas tellement. Oui, il y en a qui en parlent, il y en a qui en parlent, mais bon. La majorité ne dit rien. Elle se tait. C'est cette loi du silence qui nous fatigue vraiment en Afrique.
Alors, Fabinta, l'ONU indique que certaines femmes estiment elles-mêmes que leur mari a le droit de les battre. Comment le comprendre?
Ah là, moi je ne peux pas comprendre ça. Un mari qui bat sa femme et que cette femme soit consentante, enfin.
Est-ce que vous avez l'impression que les femmes sont résignées ou quelque part acceptent leur sort comme une fatalité?
Ben oui, si c'est le cas, oui, elles sont résignées. Elles sont résignées parce que vraiment, accepter qu'on batte une personne, et si la personne l'accepte, ben pour moi, elle est résignée. Ouais.
Nathalie, les femmes sont-elles résignées?
En fait, ce qu'elle dit est totalement vrai. Et il y a eu une enquête de l'Institut de santé de Johns Hopkins qui dit que le phénomène de la violence à l'égard des femmes est profondément ancré dans les cultures du monde entier, à tel point que des millions de femmes le jugent normal. Ces femmes ont été conditionnées depuis le plus jeune âge, et encore une fois, à qui la faute? On va parler des lois, mais le problème des lois, finalement, c'est ce qui date un petit peu, c'est ce qui reste un petit peu du code Napoléon. En France, faut pas oublier qu'à une certaine époque, avant les années 60, le mari également avait le droit de corriger sa femme ou le droit de décider si sa femme pouvait avoir un emploi ou pas, comme c'est le cas en Arabie Saoudite ou ailleurs. Donc en fait, c'est pour ça aussi que une femme résignée, bon, résignée, je sais pas, mais dans tous les cas, on peut dire qu'elle est cernée de toutes parts. Elle est cernée de toutes parts par la loi, par l'absence de loi, par les injustices, par la pression de la famille, par la société, par la communauté, par la culture, par des traditions. Des traditions, on a le problème du mariage forcé. Le mariage forcé, c'est une violence familiale. Le mariage forcé se pratique en famille, hein, avec une fille mineure ou autre. Les mutilations génitales féminines sont des violences que j'appelle, moi, familiales, parce que ça se pratique également en famille. Les grossesses forcées, c'est extraordinaire. Vous savez très bien qu'on a de nombreuses femmes en Afrique qui font beaucoup d'enfants. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dès leur plus jeune âge, et on leur demande jamais si elles veulent vraiment mettre au monde tous ces enfants. Donc en fait la violence familiale elle a vraiment un aspect avec plusieurs facettes, et on peut dire effectivement que cette femme elle est cernée de toutes parts. Donc est-ce qu'elle est résignée? Ça aide beaucoup à la résignation, en effet.
Alors, on va revenir sur certains de ces aspects dans pas longtemps, juste après la pause. Gros plan sur les violences faites aux femmes dans cette édition. Pour en parler, on a à Bamako, peut-être un peu plus tard dans cette émission, l'ancienne directrice nationale de la production, de la promotion de la femme au Mali et ex-secrétaire générale en charge du genre. On a également Fabinta Badienne-Lo, qui est en ce moment à Staten Island. Elle milite notamment pour le droit des migrantes. Et à mes côtés, Nathalie Barge, qui est un peu notre experte femme ici à VOA Afrique. Alors, on va maintenant parler du rôle des institutions. Les Nations Unies soulignent le besoin d'une justice efficace pour affronter les violences contre les femmes. Alors Nathalie Barge, dans quelle mesure les lois protègent-elles les femmes contre ces violences conjugales ?
À travers l'histoire de l'humanité, on a en effet compris que ce qui nous protège, c'est les lois. Les lois et surtout leur application. Donc il faut une très bonne coordination entre la police et le judiciaire, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout dans certains pays d'Afrique où ces lois commencent à se mettre en place tout doucement dans les pays francophones, pays d'Afrique centrale, pays d'Afrique de l'Ouest, ça arrive tout doucement. Les pays arabes sont beaucoup plus avancés, mais effectivement la loi protège. La loi protège à partir du moment où l'on a un mécanisme qui se met en place qui nous permet de déposer plainte en toute sécurité. Nous avons par exemple dans les pays occidentaux, comme cela se fait en France, ailleurs en Europe ou aux États-Unis, si vous êtes violenté par votre conjoint ou votre mari, vous pouvez déposer plainte. Et ce qui est intéressant dans cette loi, d'une manière générale, c'est que ça passe en pénal. Voilà, c'est inscrit dans le code pénal. C'est-à-dire que c'est criminalisé.
Mais est-ce que déjà ces lois existent ? Après, on va voir si après elles sont appliquées ou pas. Mais est-ce qu'elles existent ? Est-ce qu'elles reconnaissent ces violences ?
Elles existent beaucoup plus dans les pays anglophones africains, comme c'est le cas dans beaucoup de choses en ce qui concerne les droits humains. Par exemple, le Kenya, c'était en 1998, il y avait eu cette affaire d'une jeune femme battue par son mari qui était devenu paralysé. Bon, il était rentré à la maison, il n'y avait pas de viande dans l'assiette, donc il l'a battue, elle s'est retrouvée paralysée et elle est morte 5 mois plus tard. Et ce qui s'est passé, c'est que, et ça c'était en 1998, hein, il y a une vingtaine d'années. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mobilisation extraordinaire pendant 5 ans. la presse, les ONG, et au bout de 5 ans, au bout de cette mobilisation, les gens n'ont pas lâché. Il a été donc une loi a été créée sur la protection de la famille, qui fait de la violence conjugale et d'autres formes de violence familiale un crime relevant du droit pénal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est très souvent le reproche que ces ONG de protection des droits humains et des droits de la femme, en général, ont un reproche qu'elles ont à faire. C'est-à-dire que ce n'est pas considéré comme un crime, encore, dans beaucoup d'endroits. Oui. On a des pays qui sont un petit peu, on va dire, en avance sur les autres, sont les pays du Maghreb, mais c'est tout neuf. C'est tout neuf. L'Algérie, c'est 2016. La Tunisie, c'est 2017. Et le Maroc, je crois que c'est cette année, c'est septembre 2018. Donc c'est vraiment tout récent. Et justement, là, on a des lois vraiment extrêmement intéressantes à ce sujet-là, dont on peut parler si vous voulez.
Alors, puisqu'on a Raïssa Kasongo qui est en RDC, on va la faire venir dans la discussion. Raïssa, il suffit pas d'adopter de nouvelles lois. Les mécanismes d'application, comme le mentionnait Nathalie, et les procédures judiciaires, sont-ils accessibles aux femmes aujourd'hui dans votre région ?
Je dirais qu'on a plusieurs lois qui protègent la femme, mais ce sont des lois qui ne disent rien par rapport aux violences domestiques, parce que le code de la famille met égal à égal l'homme et la femme, les enfants dans le foyer. Il y a la constitution qui protège la genre dans le foyer. Il y a également la loi de 2006 avec les violences sexuelles, mais ce sont des lois qui ne disent rien par rapport aux violences sexuelles. Et avec cela, nous avons trouvé qu'il y a des territoires, des provinces de la RDC qui se diffèrent par rapport à ces violences. Et comme on a donné le privilège à chaque province de pouvoir abroger des lois qui peuvent les aider à maîtriser certains aspects de la vie sociale, nous sommes en train de faire élaborer un outil, c'est-à-dire un projet de loi au niveau provincial pour que les
gens soient quand même recouverts au niveau du foyer. Est-ce ainsi que si une fois cette loi passe au niveau de l'Assemblée provinciale, si une fois les députés votent cet édit, cette proposition d'édit, cette loi, ça va quand même aider les femmes à pouvoir être quand même au niveau d'être recouvert de leurs droits par rapport aux violences domestiques. Mais ce que je voulais également mentionner, c'est par rapport à ces lois qui ne sont pas appliquées. En RDC, on a plusieurs lois, on a beaucoup de lois, des belles lois d'ailleurs, mais la mise en application reste encore un problème très profond. Parce que tu vas trouver que l'ONU a instauré même la police spéciale en charge de la femme et de l'enfant. Mais en ce que je sache, il y a dans les territoires où cette police est totalement absente. Et les femmes n'ont pas de moyens de pouvoir saisir cette police-là en cas de besoin. Mais aussi la police qui dit souvent que les femmes ne dénoncent pas. Et nos coutumes nous ont toujours dit que les femmes ne doivent pas amener leur mari au niveau des tribunaux, au niveau de la justice, parce que c'est une honte pour la famille, c'est une honte pour la société. Donc ça reste un calvaire pour la famille.
C'est mal vu. Alors voyons maintenant ce qu'en pensent nos Facebookers. On a Moississé de Bamako au Mali qui dit « Je suis contre la violence d'une manière générale, mais pourquoi on parle rarement de la violence faite aux hommes par certaines femmes ?» Lambert Chileu Mouyemba de Mbujimaï en RDC, c'est vraiment un sujet sensible et j'en appelle à une prise de conscience. Comment un homme normal peut-il arriver à tuer sa propre femme ou sa sœur? Et pour quelles raisons? En Afrique, il existe une forte solidarité familiale, difficile à briser. En gros, ces actes sont à condamner. Les autorités sont appelées à veiller tout le temps à la protection des femmes et des enfants. Et enfin, Jean-Luc Moukoutou de Lubumbashi en RDC. Tout devra commencer par le changement des mentalités chez les hommes qui, pour la plupart, considèrent la femme comme un objet, encouragé par certaines coutumes pour lesquelles la femme est un être inférieur. Au niveau étatique, je sens la mobilisation dans beaucoup de pays africains par notamment l'adoption de certaines lois visant à éradiquer la violence faite aux femmes. Donc voilà, ça c'était les commentaires Facebook. En matière de violence conjugale, l'argent est souvent le nerf de la guerre. Fatoumata Keïta, en quoi est-ce que les questions économiques favorisent ces violences?
Ok, remercie beaucoup les questions économiques favorisent les violences dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Par exemple, le chômage chez les jeunes, parce que quand on voit les cas de violence, on les fait surtout au niveau des jeunes couples. Donc, c'est vraiment le chômage, c'est le désespoir, c'est peut-être qui les amène, qui les conduisent à la consommation de l'alcool, des stupéfiants. Donc, ça, c'est des raisons vraiment qui sont là qu'on a constaté. Il n'y a plus de stabilité, il n'y a plus d'assurance au niveau de ces jeunes couples. Et cela les amène justement à être violents. Et pour revenir à l'introduction, quand on dit que la famille, mais moi, quand pour moi, quand on se marie pas. Quand on doit constituer une famille, ce n'est pas pour se créer des problèmes. Au contraire, c'est pour s'assurer, c'est pour une assistance mutuelle, c'est pour s'aimer, c'est pour se protéger. Mais maintenant, quand les foyers deviennent dangereux, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une question qu'on doit se poser. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment des phénomènes nouveaux que les enfants sont en train de vivre. Contrairement à ce que nos parents ont vécu. Donc, il n'y a plus d'assurance, il y a beaucoup de problèmes, il y a des incompréhensions, il y a même la compréhension du mariage. Parce que quand on voit les jeunes couples, les filles, elles sont pressées de se marier, elles veulent se marier pour avoir un chez-soi. Les garçons, on se demande souvent s'ils sont dans cette dynamique, dans cette logique. Parce qu'il y a une responsabilité nouvelle, il y a des responsabilités nouvelles qui se créent. Est-ce qu'ils sont prêts à assumer ces responsabilités-là? On était chez les parents, mais maintenant on dit, bon, ok, vous êtes en couple, assumez-vous. Donc tout ça, vraiment, ça pose problème.
Oui, oui. Alors je propose maintenant, excusez-moi de vous couper, on touche à la fin de l'émission, écoutons rapidement la question posée par une de nos stations partenaires en RDC.
Bonjour, je suis Serge Farini de Michapi Voice TV. Le Nobel de la paix décerné récemment au docteur Mukwege peut-il impacter sur la réduction de ce fléau ou mieux sur la prise en charge ainsi que la réinsertion sociale des femmes victimes des violences sexuelles en République démocratique du Congo?
Voilà, alors Raissa Kasongo, hein, j'espère que vous êtes toujours avec nous. Vous êtes au Congo. Alors, en quoi est-ce que l'attribution du Nobel au docteur Mukwege, qui opère les femmes victimes de violences sexuelles, peut faire avancer les choses?
Et nous croyons que ce prix Nobel va aider parce que Denis Mukwege reste une icône pour la promotion des droits de la femme ici au Sud-Kivu en particulier, parce que plusieurs femmes qui ont subi ces violences, plusieurs femmes qui ont été mutilées, les femmes qui ont subi des violences même dans leur foyer ont été soignées par cette icône-là, Denis Mukwege. Et nous croyons qu'ensemble, avec d'autres organisations de défense des droits humains, il reste le modèle pour que nous tous nous puissions mettre fin à ces violences, parce qu'on nous a toujours appris que le mariage, peut-être c'est la fin de la vie d'une femme, parce qu'on ne peut pas quitter le mariage si on a des enfants, parce qu'on ne peut pas quitter le mariage même si le mari te bat, on ne peut pas quitter le mariage parce que seulement on a donné la dot chez vous. Mais avec Denis Mukwege, avec les autres organisations de défense des droits humains, nous sommes en train d'apprendre que la femme c'est une valeur. La femme, c'est un être humain qu'il faut respecter. Avec Denis Mukwege, nous pensons que les violences domestiques, les violences faites à la femme vont cesser, même si ce n'est pas d'un coup là, mais petit à petit, ça va cesser avec les efforts des uns et des autres. Avec déjà un prix Nobel de la paix dans notre pays, nous pensons que nous allons porter haut la voix de la femme avec lui.
Et ce seront donc les mots de la fin. Fatoumata Keïta, Fabinta Badienlo, Raissa Kasongo, Nathalie Barge, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci à tous ceux qui ont suivi, à l'équipe qui a travaillé sur l'émission. C'était Morgane Guiriec. Au revoir.